Il y a la presse. J'ai beaucoup d'amis aussi dans la salle, des présidents de territoires régionaux, du département, donc je les salue bien sûr. Effectivement, nous avons décidé l'année dernière, ce n'était pas facile de prendre cette décision de venir à Cannes. À Cannes, pourquoi ? Parce qu'il était important pour nous, notre métier c'est de donner et d'offrir du plaisir, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit à table, que ce soit dans les cafés. On a un métier très particulier. Vous savez que il faut quand même sortir quelques chiffres qui me paraissent très importants. En 1960, il y avait 250 000 cafés en France. Aujourd'hui, il y en a 31 000. Le café, c'est le parlement du peuple. C'est le seul endroit où on peut se rencontrer ce matin, par exemple, un matin, avec M. Lisnard. Et se parler autrement, se parler dans les yeux, se parler différemment, avec votre dentiste, avec votre plombier, votre maçon. C'est un endroit formidable, le café. Et il faut que là, c'était la particularité de la France. La particularité de la France, justement, et qui malheureusement se désertifie de plus en plus, c'était qu'on prenait une voiture, on pouvait faire 40-50 km, et systématiquement, on pouvait trouver une halte, où on pouvait se désaltérer, on pouvait prendre un sandwich, une bonne assiette de charcuterie, une bonne omelette, etc., etc. Et tout ça disparaît. Disparaît pourquoi ? C'est ça le vrai souci. Vous savez, nos métiers, si on compare simplement 2012-2013, nous avons plus de 10% de défaillance en 2013. Alors effectivement, le profil est toujours à peu près le même. Ce sont des petits hôtels entre 12 et 20 chambres, ce sont des petits restaurants, ce sont des cafés. Parce qu'il y a le parc hôtelier est toujours le même, puisque je crois qu'on est à peu près à environ 650 000 chambres. Sur ces 650 000 chambres, il y en a plus de 85% du parc qui est classé. Donc c'est quelque chose qui a été très positif en termes de montée en gamme, puisqu'il y a beaucoup d'hôtels pour répondre effectivement que ce soit à la sécurité, à l'accessibilité de suite, et là, on va en parler pas aujourd'hui, parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a effectivement des investissements très importants à faire dans nos entreprises, qui ne sont pas des valeurs ajoutées. C'est simplement pour répondre à la loi, pour recevoir correctement les clients et pour le sécuriser. Mais on n'offre pas de la qualité quand vous devez répondre effectivement aux 5 handicaps. Les entreprises qui peuvent le faire, effectivement, le font. Et structurellement, ou quand vous allez rencontrer votre banquier, quand vous dites effectivement j'ai besoin de 150 000 euros pour me mettre norme dans mon hôtel pour recevoir l'handicap et pour recevoir pour répondre à la loi, le banquier dit non, je ne peux pas vous les donner, monsieur. Pourquoi ? Parce que vous faites tant de chiffres d'affaires, vous n'allez pas faire un euro de plus l'année prochaine. Ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc voilà, tout ça, ce sont des dossiers que nous travaillons tous les jours. On a effectivement, vous avez entendu François Hollande qui enfin s'est réveillé, a dit que le tourisme peut être la cause nationale, peut être un levier économique extraordinaire. Donc nous sommes sur des tours de table avec des gens qui réfléchissent effectivement comment on peut développer en France intelligemment le tourisme et enfin gagner des parts de marché parce que vous l'avez dit, monsieur Lisnard, on a une concurrence terrible. Et je sais ce que vous vivez parce que effectivement, quand vous descendez, quand vous arrivez dans cette belle petite ville à Cannes, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des soucis pour les restaurateurs, les hôteliers, j'allais dire le commerce en général. Mais le tourisme est un levier tellement important à Cannes. Vous avez une image telle qui va à l'envers, effectivement. C'est un écrin ici, c'est extraordinaire. Donc on dit ici, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas y avoir de problème. Mais madame la directrice, moi je sais ce que les problèmes que vous avez. J'ai des mesures d'aller chercher effectivement du congrès, du tourisme d'affaires. Il faut que les professionnels le sachent, le travail que vous faites, parce que c'est remarquable. C'est très difficile parce que vous êtes sûr. Maintenant, l'industrie, comme vous prenez toutes les villes de l'Est et du Nord, tout le monde a une salle de congrès actuellement. Et tout le monde offre tout pour avoir rien. Ouais, donc c'est toute la difficulté.
C'est bien ce que dit monsieur.
C'est pour ça que j'offre rien pour avoir tout.
C'est un sujet que je connais parfaitement bien. Donc je sais que c'est très difficile. Alors imaginez en France. Alors après, derrière, il y a les pays de Maghreb, enfin, il y a les pays européens. Voilà. Quand vous pensez que, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais vous prenez l'Espagne, vous prenez la Grèce, vous prenez l'Italie, c'était les pays européens qui malheureusement étaient les plus grandes difficultés économiques. Et c'est eux qui ont fait le plus d'efforts dans le tourisme. Je ne sais pas si Gaël a mené le journal. Il faut savoir que nous, on dépense, d'accord. On budgétise, je crois, 71 millions. Pour faire du marketing commercialisé pour vendre France, il faut savoir que l'Espagne, c'est 220 millions. Vous voyez, si j'ai des chiffres comme ça, je peux vous en sortir. Donc on n'est pas, le tourisme en France n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc il est temps de modifier toutes ces choses-là. Et vous l'avez dit, parce que derrière, tout simplement, il y a de l'économie, il y a de l'emploi. l'emploi. Et quand je vois le monsieur le directeur du CFA qui est là présent, qui me dit effectivement il a 850 jeunes dans son CFA, donc c'est très important 850 jeunes, hein, et qu'il y a 350 jeunes qui sont dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est remarquable. Et vous savez, nous, à l'UMI, on est très attachés au CFA, parce qu'on est très attachés à l'alternance, on est très attachés à l'apprentissage. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, on a tout un travail maintenant de pédagogie à faire, mais l'apprentissage est quelque chose de très important. Il faut qu'on reparle aux professeurs, même s'il y en a certains qui sont plus ou moins difficiles. Il faut qu'on reparle aux parents pour leur dire qu'il y a des vrais métiers chez nous. Mais pour ça aussi, il faut que nous, chefs d'entreprise, on donne une vraie valeur, une vraie qualité à nos métiers. Je prends toujours le même exemple. En cuisine, on est remarquable en France. Il y a 150 000 points de vente où on peut s'alimenter. C'est-à-dire que s'alimenter, vous rentrez dans ce que disait M. Lisnard. Il y a de bons restaurateurs, il y en a de moins bons. Dans les moins bons, il y a souvent, et je ne veux pas les opposer sur tout point, il y a la restauration traditionnelle que l'on défend énormément en France et la restauration industrielle. Il y a des comportements qui ont changé, on déjeune très rapidement le midi, très bon, etc., etc. On maîtrise tout ça parfaitement bien. Mais que fait-on pour la cuisine française? À part des articles de journaux, on dit toujours que tout va très bien. On perd du terrain tous les ans. C'est la première année où la cuisine industrielle est passée en termes de marché au-dessus de la cuisine traditionnelle en France. 55% pour l'industrie, 45% pour le traditionnel. Et pourquoi? Parce que sur un compte d'exploitation, et vous le savez, il y a plein de restaurateurs dans cette salle, la restauration traditionnelle, c'est 45% de masse salariale. 45% de masse salariale. Le reste, c'est 20-22%. Même un restaurateur, à un moment donné, qui se fatigue, même si derrière, il y a du savoir, il y a de la compétence, il y a, vous savez, tout le travail qu'on fait à travers maître restaurateur, le référentiel, et on veut arriver justement à cette reconnaissance, et on a des difficultés avec la ministre, de dire, attendez, nous sommes plutôt, avec ce mot qui a un peu plus de noblesse, nous sommes des artisans cuisiniers, des artisans restaurateurs. On a une approche différente, mais reconnaissez-nous. Et à un moment donné, il y aura des choix qui vont se faire mécaniquement. C'est-à-dire qu'ils vont aller de plus en plus vers l'industrie, tout simplement pour les deux chiffres que je vous ai donnés. Parce que d'un côté, avec les charges et tout ce que l'on prend dans la tête, toutes les semaines après semaine, et puis derrière, je ne vais pas vous noircir, mais avec la pénibilité qui arrive, avec l'UNEDIC qui va augmenter, etc., etc., on va s'étouffer. Donc on n'a plus envie. Alors, quand on demande effectivement d'avoir un petit peu de confiance, une pause fiscale, et de dire, attendez, on se pose pendant 3 ou 4 ans pour qu'on ait un petit peu de prospective, pour qu'on ait un peu envie d'investir, des possibilités, envie d'investir et donc de créer de l'emploi, il faut qu'on respire. Quoi. Là, on est enfermé dans un système impossible, une mécanique. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes en France dans la profession. Défaillance, je vous en ai parlé. Il y a des SOS qui sont de partout, parce qu'on a cette chance qu'il y a 220 000 entreprises. Je vais parler un petit peu de l'UMI, parce qu'on est à 85% des entreprises syndiquées sont à l'UMI. Donc, vous le savez, M. Lisnard, avec la représentativité qui a été demandée, là, depuis le texte est sorti depuis un mois, donc il y aura une loi sur la représentativité d'ici la fin de l'année pour les organisations professionnelles. Inutile de vous dire moi, je me félicite, parce qu'on va être vraiment en tête du wagon. Mais ce sera aussi une façon de tendre la main vers l'ensemble des entreprises, parce que maintenant tout le monde me dit, attendez, il faut aller dans la rue, il faut faire comme les Bretons. Mais pourquoi? Moi, je veux bien aller dans la rue, je veux bien tout faire. Mais à l'arrivée, je veux avoir un résultat. D'abord, un, je veux être suivi, et deux, je veux avoir un résultat. Et je crois que les Bretons, quand on analyse un petit peu, c'est pas que les Bretons qui étaient dans la rue. Bon, en fait, ça, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment un vrai problème. J'ai une grande inquiétude, parce que je reviens dans ce que je disais il y a 3 minutes, parce que vous savez, donc, ce que j'appelle, je peux imaginer, et on l'a écrit au président de la République, on l'a écrit au Premier ministre, que notre profession peut très rapidement créer le plus grand plan social invisible. Invisible, parce que nous sommes des petites entreprises, de 2 à 3 salariés à 10 salariés, et effectivement, on est très attachés à nos collaborateurs, à nos salariés. Se séparer de quelqu'un, c'est dramatique, mais à l'arrivée, je crois que c'est ce qui va se passer. Donc on peut, très malheureusement, mettre 100, 120 000 salariés sur le bas-côté de la route, et ce serait un grand pour la profession, mais je ne vois pas, après tout ce que j'entends, puisque je voyage, je vais dans pas mal de départements, et ça me remonte. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là, j'ai aussi cette crainte, vous savez que le 1er janvier, on va passer de la TVA, tout simplement, de la TVA à 7 à 10%, Et j'ai vraiment très peur, je suis très inquiet que ce passage du TVA va laisser des traces énormes, des traces énormes, même si effectivement on est plus stigmatisé en tant que restaurateur ou hôtelier, puisque c'est un effort national avec l'ensemble des branches. Mais dans nos métiers, dans la restauration surtout, on va laisser des traces importantes. Pourquoi ? Parce que la restauration est toujours dans ce même phénomène. On achète des produits à 5, on revend à 10. Il y a toujours ce différentiel de 10 points. Alors même si c'est le client qui en subit les conséquences, c'est dramatique. Donc voilà mes inquiétudes. Et on va revenir sur des tables rondes. Et je reviens donc sur le congrès du 26 au 28 novembre, parce qu'on va passer quand même pratiquement toute la semaine ici avec des tables, avec du travail qui est important. Donc je ne sais pas si on vous a distribué Donc c'est les sujets principaux. Et donc je rassure le président des plages, je vois qu'il y a une table ronde avec tourisme et protection du littoral. Équation impossible ou économie durable. On parle aussi sur des sujets, vous savez qu'en France, la chose incroyable, là aussi c'est notre organisation, c'est l'unique qui a déclenché, c'est-à-dire sur tout ce qui est le commerce illégal en France, c'est impensable. Vous savez qu'il y a plus de 160 000 chambres en France qui sont vendues dans l'illégalité la plus complète, avec des sites. À Paris, il y en a relevé 400 sites qui vendent des chambres de 300 à 400 euros tous les jours. On a vendu en France, on est allé, donc on avait averti le ministère en disant voilà, tel jour, à telle heure, on a identifié dans 50 départements des chambres hôtelières illégales, qui ont 10, 12 chambres, et on a envoyé un huissier à la même heure, et on a relevé effectivement, on est tombé sur la procédure. La restauration, c'est la même chose, maintenant de plus en plus ça se développe, c'est-à-dire avec des sites, on peut aller manger chez Madame Martinez une paille là tous les soirs à 10, 15, 20 personnes.
Sur Madame Martinez, on en a...
Oh, mais il y en a partout, c'est pas ça. Et alors, il y a un phénomène, après il y a un fléau sociétal qui pour les jeunes, c'est effectivement l'alcool. L'alcool, vous savez que dans nos cafés, hôtels, restaurants, discothèques, on ne consomme, on n'achète que 10% de l'alcool. Il y a 90% de l'alcool qui est dans les foyers et le reste, il est consommé massivement chez les jeunes dans la rue. Et là, on a fait un gros travail aussi, on va aller dans les ministères, bien sûr, de la Santé et de l'Intérieur. On a pris rendez-vous pour leur montrer que l'alcool, quand je parle d'alcool, je parle de la vodka. Et d'ailleurs, les médias prennent ce dossier en main parce qu'ils sont assez surpris des images qu'on leur montre. Donc, il y a des gamins et des gamines de 14 ans qui boivent de l'alcool à la bouteille, enfin 25 minutes, et qui se met dans des états terribles. Vous savez que l'arrondissement de Paris où on consomme le plus d'alcool, c'est l'arrondissement des grandes écoles, où il y a tous les jeudis soirs, il y a des palettes et des palettes qui sont livrées de vodka, de tous les produits au-dessus de l'alcool très fort. Enfin, voilà des exemples comme ça, on en a assez énorme. Et puis après, il y a le monde, et là c'est un peu plus difficile. Monsieur Lisnard, parce que c'est le monde de l'association. Parce que le monde de l'association, si le maire achète souvent sa quiétude, j'allais dire, par rapport aux associations, ils permettent tout. C'est-à-dire qu'on a vu dans le Nord, on a envoyé la semaine dernière, il y a 15 jours, une dizaine d'huissiers. Il y a 10 ou 15 associations qui, 24 heures sur 24, vendent de tous les alcools possibles et inimaginables. Et tout autour, il n'y a plus de café dans le Nord. Enfin voilà, des exemples comme ça. Donc on est obligé, un, c'est pas notre travail de le démontrer, de témoigner, d'arriver à négocier, qui sont consolidés, et d'amener ça tout ça au ministère. C'est pas nous à le faire, parce qu'il y a effectivement, il y a des règles, il y a des lois, mais l'État actuellement n'applique pas les lois, il ne les fait pas respecter, et par contre, ils viennent effectivement taper la force vive, c'est-à-dire les entreprises. Donc voilà, donc il y aura du monde, il y aura de l'intérêt, et je suis, moi, personnellement, très fier de venir et très heureux de venir à Cannes, puisque je suis, moi, basque, je suis cafetier, hôtelier, restaurateur à Biarritz. C'est pour ça que je faisais un petit peu, j'allais dire, à une échelle différente. Je superposais un petit peu Biarritz en termes de marque, d'image, et ce que vous représentez, et toute la difficulté que vous avez, effectivement, de rester, j'allais dire, en haut de l'affiche. Merci beaucoup.